Bonjour à tous, je suis Guillaume Lenné. Ici, pas besoin de tendre le bras pour avoir du réseau, c'est l'heure de Chéri ça capte. Déjà l'heure du troisième numéro de Chéri ça capte, avec un concept qui ne change pas, vous parler du monde et de votre business de demain tout en restant compréhensible. Pour m'aider dans cette toujours noble tâche, j'ai avec moi deux experts que la France m'envie, le passionné et passionnant Ludovic Salen. Salut Ludo.
Salut Guillaume, salut Hervé, salut tout le monde.
Et le toujours pimpant Hervé Bourdon dit Valvert. Comment ça va Hervé?
Pimpant, ben en pleine forme. Bon. Salut tout le monde.
Oui, on a encore un petit peu de soleil, c'est la toute fin en ce mois d'octobre 2017. Petite info, on devrait être de retour sur iTunes puisqu'on s'était fait salement jeter. Sans que je sache pourquoi, mais depuis j'ai eu une enquête et j'ai même eu un mail des States des États-Unis qui m'a indiqué, et donc pour la culture de tout le monde et pour mon mea culpa, en fait on s'est fait sortir pour contenu explicite.
D'accord.
Je me sens coupable.
Alors, absolument pas. Je me suis dit, tiens, à un moment, est-ce que finalement on avait branché la vidéo ou est-ce qu'on a dit plein de gros mots? Pas du tout. C'est que dans la description, j'avais mis qu'on allait parler sans bullshit. Et ils n'ont pas aimé. Les Américains n'aiment pas le bullshit. Voilà, donc voilà, on va être de retour sur iTunes. D'accord. On a changé la description. On ne dira plus bullshit. On dira qu'on ne dit pas de la merde et ce sera très bien. Allez, un petit traditionnel tour de table. Aujourd'hui, on va commencer par des actus qui nous feront réagir, comme d'habitude. Ensuite, c'est Hervé qui s'y colle pour nous expliquer la différence entre deux mots barbares, le SEO et le SIA. C'est bien ça?
C'est ça.
Et puis, Ludo, qui s'y colle pour nous expliquer et nous répondre à une question ô combien importante. Pourquoi est-ce que Google, ce méchant, n'aime pas notre site?
Tout à fait. En fait, on va essayer d'identifier les principales raisons pour lesquelles aujourd'hui votre site Internet n'est pas bien référencé sur Google. Et pourquoi Google ne vous aime pas, tout simplement.
Ok, allez, on démarre, c'est l'heure des actus. Aujourd'hui, je vais vous parler réalité virtuelle. Et qu'est-ce que de réalité virtuelle? La semaine dernière, voilà, enfin il y a 15 jours, on a parlé des assistants. Aujourd'hui, je vous annonce qu'on a le chiffre de 2,1 millions de casques de réalité virtuelle vendus sur le second trimestre. Alors, est-ce que ça vous évoque quelque chose? Est-ce que ça vous paraît beaucoup, pas beaucoup, la réalité virtuelle? Est-ce que vous y avez cru un petit peu, pas beaucoup? Quel est votre avis là-dessus?
Bah, moi, personnellement, j'y crois beaucoup. Je vois d'énormes potentiels, que ce soit d'un point de vue professionnel ou personnel. Maintenant, pour être totalement franc avec vous, j'ai pas encore eu l'occasion de tester la réalité virtuelle, hormis avec le fameux Google Card, qui était une lunette en carton fournie par Google il y a quelques mois. Donc, j'ai pas vécu l'expérience. Maintenant, je vois pas mal de potentiel d'un point de vue commerçant, c'est-à-dire que tester un vêtement à distance, en réalité virtuelle, visiter une ville, un musée ou toutes sortes de lieux en réalité virtuelle, je trouve ça génial. Je pense que quand on arrivera à connecter réalité virtuelle et puis aussi émotion virtuelle, enfin je sais pas si on peut dire ça comme ça, mais quand on arrivera à lier effectivement le visuel à l'émotionnel, je pense qu'on tiendra vraiment quelque chose d'intéressant. Et ce que je peux craindre, c'est peut-être qu'un jour on ait tous nos lunettes sur la tronche et qu'on arrête de se parler dans la journée, enfin dans la vraie vie, et qu'on soit H24 dans le monde virtuel.
Oui, c'est parce que nous, on a vu Demolition Man et on sait comment il couche dans le futur, donc forcément, ça nous a, ça nous a freiné. Hervé, toi, tu as déjà eu l'occasion de tester un vrai casque de réalité virtuelle, c'est-à-dire pas juste un format avec le téléphone?
Tout à fait, il y a assez peu de temps, en fait. Donc, j'ai pu tester sur une plateforme de jeu chez des amis. J'ai été bluffé, je dois dire. Par la fluidité, le rendu, le vertige aussi un petit peu. Ce qui est assez marrant, c'est qu'en fait, il y a quelques news qui nous parlent de la distribution de casques de réalité virtuelle et visiblement, une grande majorité des acheteurs n'a pas oublié que pour les applications adultes, on va dire, ça pouvait être assez rigolo. Donc, c'est souvent ces industries adultes qui drivent le business sans qu'on en parle trop. Hein. Ça a été le cas pour le e-commerce, par exemple. L'autre point que je trouve intéressant, c'est d'imaginer ce que ça peut être dans quelques mois ou années. Des casques plus légers, peut-être dans lesquels on est moins isolé. Et je viens de parler avec une une start-up là, qui fait un dispositif de tête de visée haute, en fait, de vitre semi-réfléchissante qui se met devant l'œil sur un casque et qui permet d'afficher dans certains environnements des données GPS ou des infos façon Google Glasses. Je pense que c'est un grand avenir, que c'est drôle de tâtonner. Ce que je vois surtout, c'est que comme on a de la puissance de calcul, ça commence à avoir des rendus et des utilisations très, très fluides. Pour le commerce, pour rejoindre le point de Ludo, je ne sais pas encore ce que ça peut donner. Je suis dans l'expectative, comme on dit. Je ne vois pas encore le lien.
Bah, moi, je vous avoue que j'y croyais pas mal et finalement, je suis assez déçu pour l'instant de ce que ça peut donner. Alors, je pense que c'est à mettre sur le compte de coûts qui sont importants, parce que ce qu'il faut pas oublier, c'est qu'à l'heure actuelle, pour avoir un casque qui tient un petit peu le pavé, on va dire l'entrée de gamme, c'est un PlayStation VR qui va être aux alentours de 400 €, si je dis pas de bêtises. Un Oculus Rift, on arrive facilement à 600 € et le HTC Vive, encore pire. Et quand on a vu Facebook poser 2 milliards d'euros sur la table sur Oculus, donc voilà, je les voyais vraiment peut-être pousser un peu plus ça. Aujourd'hui, pour faire tourner un casque, il faut quand même une bête de compétition. C'est-à-dire que moi, je sais que mon ordinateur ne le ferait pas tourner. Il faut être raccordé à cet ordinateur. Donc au niveau de l'autonomie, c'est un petit peu compliqué. Et puis tout à l'heure, Hervé, tu parlais de l'industrie pour adultes. Alors effectivement, il y a plein de technos qui se sont imposés comme ça, hein, que ce soit la VHS, le Minitel et même dans une certaine mesure l'Internet. Et en fait, ce qui se passe, c'est que je crois pas qu'il y ait beaucoup de contenu, parce que ça doit être assez difficile en fait à tourner, ça demande du matériel et autres, et finalement ça met du temps à décoller. Pour ceux qui ont suivi aussi, Oculus a eu des petits problèmes avec son patron, Palmer Luckey. Je ne sais pas si ça vous parle, si vous connaissez ce nom-là. En fait, Palmer Luckey, c'est en gros un adolescent qui a un peu relancé à lui tout seul la mode de la réalité virtuelle qu'on avait lâchée depuis les années 90 et le cobaye, via des plateformes comme Kickstarter. Sauf qu'il s'est révélé qu'il avait utilisé son argent qu'il avait touché par Facebook un petit peu pour aider la campagne de Trump et aussi pour, comment dirais-je, un peu stalker et voilà, être pas très agréable avec des opposants. Donc il s'est fait gentiment éconduire d'Oculus. Et voilà, ça a peut-être joué aussi dans l'image d'Oculus, en plus du prix qui fait que HTC les a mangés. D'ailleurs, à la dernière conférence, Mark Zuckerberg a annoncé un nouvel Oculus plus léger et moins cher, parce qu'il sera à 200 $, je crois, au lieu des 600 et quelques. Donc vraiment, je pense qu'il y a un problème d'adoption par rapport au prix. Et pour revenir sur le Pro, une technologie à laquelle je croyais moins, mais finalement, peut-être que Microsoft, qui avait, lui, misé là-dessus, avait raison, c'est la réalité augmentée. Donc la différence, c'est la réalité virtuelle, on est vraiment dans un univers en 3D dans lequel on se balade, alors que la réalité augmentée, c'est votre propre visibilité avec des choses qu'on ajoute. Et peut-être que là, dans les magasins, on peut imaginer, on parlait de l'exemple d'essayer un vêtement, bah effectivement, réalité augmentée en se regardant dans un miroir, ça peut peut-être être plus efficace. Donc je sais pas, est-ce que vous voyez... On a moins le côté contraignant aussi à être isolé qu'on a avec un casque. Est-ce que vous pensez que la réalité augmentée, finalement, s'en sortira mieux que la réalité virtuelle ?
C'est ma conviction, en fait. Le fait est que je suis tout à fait dubitatif de l'intérêt d'avoir un téléphone à la main toute la journée ou une montre ou des choses comme ça. Donc, je pense que tout ce qui est dispositif main libre et commande vocale, etc., va exploser, ça, c'est certain. On est dans la transition, on ne sait pas encore ce que sera l'accès aux données bientôt. Et ces données, on en a besoin à des moments où on n'est pas disponible, hein, quand on est en train de conduire, quand on est en bateau, quand on joue de la guitare, par exemple. J'adorerais avoir une réalité augmentée pour avoir mon cours de guitare plutôt que sur mon iPhone ou mon Android. Et je crois beaucoup à ça. Après, le fait que des applis en réalité virtuelle, donc, ou des tournages, n'aient pas été faits, mais que les gens achètent quand même des casques pour regarder des vidéos adultes, je crois qu'il y a ce côté isolement, hein, peut-être, qui compte. Donc, on est dans des utilisations qui sont opposées, peut-être. je sais pas, on verra. Je pense que pour l'instant, c'est le gros fouillis. On voit pas encore fortement les tendances.
Disons que oui, on est sans doute en phase d'évangélisation et de test. Et comme tu l'as dit, il faut essayer une fois dans sa vie pour peut-être se projeter un petit peu plus facilement. Allez, news suivante. Alors, une news toute récente, et je sens que ça va faire réagir Hervé, parce que je le sens chaud sur l'Asie en ce moment. On a le fabricant Huawei, j'espère pas trop écorcher le nom, donc le fabricant de téléphone, qui va proposer un modèle haut de gamme, qu'il a présenté lundi, donc clairement à mettre en face de Samsung et Apple, sauf que ce modèle-là, je vais pas vous dire de bêtises, je crois qu'il sera à 800 euros. Alors que le Note 8 sera à 1000 euros et l'iPhone 10 à 1300 euros avec un téléphone non seulement haut de gamme mais qui en plus va être un téléphone intelligent puisqu'il y a une espèce d'IA mis dedans qui pourra par exemple reconnaître sur les photos si vous êtes en train de prendre des photos de votre sœur, d'un pot de fleurs, etc. et vous accompagner, faire des mises au point et tout un tas de choses. Donc bon, on est au courant que l'Asie de toute façon arrivera toujours, mais au-delà de ça, est-ce que... on sait que le smartphone, de toute façon, que ce soit en marketing ou en e-commerce, c'est l'avenir, on n'a plus le choix, c'est devenu le premier écran, clairement. Est-ce que vous voyez des acteurs comme ça arriver est-ce que vous pensez que cette course au smartphone de plus en plus cher ou de plus en plus puissant va faire des morts? C'est quoi un peu votre vision sur l'avenir du marché?
Alors, c'est vrai que Là, tu parles de deux sujets qui me passionnent et que je surveille de manière très attentive, c'est les terminaux, on va dire, ou les devices et l'Asie. Mon credo, c'est qu'on est vraiment à l'extérieur du monde civilisé, presque, j'allais dire, et qu'il y a vraiment une clientèle pour des appareils à 1000 ou plusieurs milliers d'euros, c'est sûr. On fait pas partie de ces personnes à très haut revenu qui consomment des téléphones en plusieurs exemplaires et qui recherchent énormément de performance. Donc, pour on va dire ces gens-là, des téléphones à 1000 euros, ça a un intérêt et il y a une course probablement à la performance et un marché de masse hein, sur ce type d'appareil. Ça, c'est essentiel. Ce que je crois aussi, c'est que on n'a pas fini de voir la disruption de la disruption arriver. Par nature, tout ce qui est bouleversement de marché est en lui-même un bouleversement. Je veux dire par là que un compétiteur qui fait une brèche sur le marché, il s'installe et il vieillit très très vite. Et il est très très vite challengé par quelqu'un qui à nouveau a la possibilité de le torpiller. Parce que les avancées techno font que bah, y a des usines à racheter pas cher et en mettant un peu plus d'intelligence, on arrive à fracasser un marché. Là, c'est marrant, tu parles de ça, j'ai acheté un Honor hier. Je savais même pas que ça existait comme téléphone. Et il y a à peu près le même saut quantique pour 400 euros. J'ai un appareil qui, il y a 6 mois, ou chez les concurrents, valait 800. Ça va très vite.
Ça va très très vite et puis ça va permettre aussi un taux d'équipement peut-être plus important. Alors même si des gens font des très gros efforts pour acheter des téléphones très chers, y compris quand peut-être c'est un peu plus cher qu'autre chose, qu'on a des téléphones de plus en plus puissants. Est-ce que justement l'arrivée de nouveaux concurrents et de choses comme l'IA dans les téléphones, Ludo, tu penses que ça peut encore changer le business et faire que, si c'est possible, ça puisse encore accélérer au niveau de la transformation?
Ouais, complètement. Et je pense qu'il y a un concurrent dont on n'a pas parlé aujourd'hui et qui va forcément faire parler de lui. Bah, c'est finalement Google qui vient de racheter en partie HTC, il me semble, si je dis pas de bêtises. Et du coup, si Google en pense pour les smartphones et qui commence à se lancer dans la guerre aux smartphones, bah, je pense qu'il va vite fait rejoindre le podium et sans doute prendre la première place dans les prochains mois, voire les prochaines années. Donc en termes de concurrence, voilà, je pense que Google peut changer les choses. Maintenant, moi, je suis un pro Apple, 100%. C'est-à-dire que voilà, le téléphone, l'iPhone 8 me convient très bien dans le sens où voilà, c'est après mon domaine d'activité qui veut peut-être ça parce que je suis tout le temps sur les réseaux sociaux, que j'ai une activité numérique qui est quand même assez poussée. En termes d'évolution, on le voit, hein, si Apple arrive à sortir deux iPhones quasiment dans la même année avec des innovations régulières, c'est qu'il y a encore pas mal d'améliorations à apporter. Donc voilà.
Ouais, enfin, on a dit qu'on parlait pas de religion, et là, j'ai entendu Apple, hein. Merci, Ludo.
C'est presque pas une religion, Steve est mort. Mais voilà, c'est
Voilà.
intéressant de voir aussi que finalement, un constructeur chinois va venir chercher les grands constructeurs sur leur domaine et peut-être même aller plus loin avec cette fameuse IA. Il y a vraiment cette notion-là, moi, qui me paraît intéressant. Alors après, on se fait pas trop de soucis pour Samsung et Apple, d'autant plus quand on sait qu'à chaque fois que Apple construit un iPhone, Samsung gagne de l'argent, parce que c'est eux qui fournissent les écrans, donc tout le monde est content. Allez, troisième actu. Alors, j'ai pas pu résister, vous savez bien, ma troisième actu, c'est toujours mon petit appât à troll, et puis j'aime bien vous faire réagir. Je vais vous donner deux chiffres, et j'irai pas plus loin, et je vous laisse réagir. On nous dit, dans une étude Deloitte, que 7 consommateurs français sur 10 achètent en ligne. Mais on nous dit dans la même étude que une PME sur 8 vend en ligne. À vous.
Vous pouvez répéter la question?
Concrètement, on a 70% des acheteurs français qui achètent déjà en ligne, mais seulement une PME sur 8 qui vend en ligne. Alors comment on explique qu'aussi peu d'entreprises vendent en ligne alors que finalement il y a tellement d'acheteurs en France et que le marché à 70% de consommateurs, ça paraît mature quand même.
Alors, si je peux me permettre d'attaquer, déjà, je prends un exemple sociologique, on va dire, qui est ces entreprises qui, pendant un moment, passaient avec grande réticence un téléphone mobile à leurs employés,
Voir un email.
Un Nokia 2110, et puis eux achetaient un iPhone. Donc, ils étaient suréquipés par rapport à leur utilisation professionnelle. Et ça me semble assez caractéristique. Aujourd'hui, l'homme ou la femme de la rue est souvent en avance en termes de techno par rapport à la vie des entreprises. J'en veux pour preuve le stockage de documents, de photos, d'usages mobiles, etc., etc. Ensuite, on a quand même un deuxième frein qui est l'utilisation B2B du numérique. On a des grosses boîtes qui ont des places de marché, on a pas mal de PME qui font du négoce par échange de données informatisées, mais la quadrature du cercle pour les PME, très souvent, ce sont les problèmes de réseau de distribution. C'est-à-dire que mettre du e-commerce dans leur distribution, ça veut dire très souvent raccourcir leur circuit de distribution. Ça veut dire harmoniser ou fracasser pour reconstruire leur structure de marge et de coûts, les équipes, toute leur organisation. Donc, ils préfèrent très souvent garder l'ancien modèle, quitte à perdre en compétitivité et se retrouver un matin avec Amazon qui vend du matériel. C'est arrivé à un de mes prospects qui distribue du matériel médical. Et ben, ils prennent encore des fax. Ils ont des commerciaux sur le terrain, etc. Et pour eux, le commerce électronique, bah, c'est trop bouleversant. Ils veulent pas. Donc, ils savent que leur part de marché diminue, que leur marge diminue, mais ils disent, bah non, chez nous, on fait pas de commerce électronique. Et ben, tant pis. Je veux dire, ça sera peut-être, hein, je suis pas l'oracle de Delphes, comme pour les charrettes à cheval, mais et les voitures. Mais ça bouge pas. Ça stagne.
Et toi, Ludo, tu fais souvent face à des entreprises ou à des gens dans l'entreprise qui freinent justement sur cette partie-là, qui voient pas l'intérêt. Alors, j'allais dire ne serait-ce que d'être sur Internet, mais encore plus de vendre, et qui voient ça peut-être comme quelque chose de compliqué.
Ouais, complètement. En fait, moi, je vois deux types d'entreprises généralement. Alors, effectivement, il y a les entreprises comme tu le décris qui ne veulent pas se lancer dans le e-commerce parce qu'elles trouvent ça compliqué. Comme le disait Hervé, le e-commerce, c'est une vraie transformation digitale de quasiment tous les métiers de l'entreprise. Donc, ça veut dire qu'on doit modifier notre façon de vendre, notre façon de distribuer, notre façon de promouvoir en passant au e-commerce. Donc, il y a vraiment un chantier à travailler à ce niveau-là et certaines entreprises vont te dire que c'est très compliqué. Et à côté de ça, moi, je rencontre aussi souvent des PME qui se disent, bah, comme tu le dis, les consommateurs veulent du e-commerce, donc je vais me lancer dans le e-commerce et qui n'arrivent pas du tout à visualiser le chantier que le e-commerce va leur, enfin le travail que ça va leur demander en fait. Donc eux, enfin moi ça m'arrive assez régulièrement de rencontrer des entreprises qui vont investir 10, 15 000 euros dans un site e-commerce mais qui n'ont pas prévu derrière qu'il fallait faire de la communication, qui n'ont pas prévu derrière qu'il allait falloir mettre en place une stratégie logistique qui soit complète et qui, du coup, se retrouvent au bout de 6 mois, 1 an, à ne pas avoir de retour sur investissement après le lancement de leur site e-commerce. Comme tu le disais tout à l'heure, voilà, il y a 7 consommateurs sur 10 en France qui sont prêts à acheter en ligne ou qui achètent en ligne. Maintenant, il faut aussi voir qu'en France, il y a quasiment 200 000 sites e-commerce et que du coup, la concurrence est vraiment déjà féroce à ce niveau-là, puisque les sites e-commerce qui sont présents en ligne et notamment les leaders dans chaque marché sont présents sur Internet depuis des années. Du coup, ils trustent les premières pages de Google depuis des années et qu'aujourd'hui, pour les déboulonner et pour être visible, c'est vraiment très, très compliqué. Donc, il y a vraiment une stratégie à mettre en place pour être visible, faire connaître sa boutique e-commerce. Et moi, plutôt, enfin, je pense que c'est important de mettre un peu l'accent là-dessus, c'est que oui, il y a des PME qui veulent pas être en ligne et faire du e-commerce parce qu'elles trouvent ça très compliqué. Mais à l'inverse, il y a aussi beaucoup de PME qui pensent que c'est une simple formalité et qu'il suffit de créer un site qui soit joli et rapide à charger pour pouvoir vendre sur Internet.
Alors, pour avoir longtemps travaillé en agence e-commerce, le plus spectaculaire, c'est effectivement les entreprises qui se lancent et qui pensent pas au catalogue parce qu'ils sont persuadés qu'avoir une référence et un prix, ça fait un catalogue sur le web. Et là, on brise de nombreux rêves. Et j'ai vu des dossiers durer des années et des années pour finalement jamais sortir, juste parce qu'ils n'étaient pas en mesure de remplir le catalogue et que ça ne se fait pas sans une photo, une description, etc. etc. Je vais peut-être me faire l'avocat du diable, mais est-ce que tout bêtement, il ne commencerait pas à être trop tard pour les gens qui ne se sont pas encore lancés ?
Mais trop tard, c'est quoi déjà je pense que c'est très variable selon les industries, d'une part. D'autre part, il y a certains moments où le fait d'attendre peut avoir un effet positif. Je regrette de le dire publiquement, mais il y a pas mal de tâtonnements qui peuvent être évités par des gens qui ont réfléchi pendant longtemps et s'y mettent sans avoir raté trop de trains. Il y a toujours le train suivant, on va dire. Et parfois, le train suivant, c'est un TGV. Ça dépend des domaines. Je pense que dans le domaine de la distribution, par exemple, il y a un fossé qui est en train de se creuser entre des grandes enseignes, des grands réseaux qui adoptent vraiment des technologies pour lesquelles il y a de l'efficacité, hein, que ce soit sur le tracking des clients, leur satisfaction, les outils de gestion, et puis le petit commerce qui rame derrière et qui en souffre énormément. Il faut voir au cas par cas.
Parce que clairement, ouais. Si aujourd'hui votre activité c'est de vendre de l'électroménager, se lancer sur le web, enfin, en e-commerce, ça a peu d'intérêt vu ce que vous aurez. Mais peut-être aussi que l'erreur, c'est de croire que vendre c'est forcément e-commerce. C'est-à-dire qu'on a plein de moyens de vendre, on peut vendre des formations, on peut vendre du service, on peut faire de la réservation. Enfin voilà, il n'y a pas forcément que la grosse usine, on peut vendre sur des places de marché, et Dieu sait qu'il y en a pas mal qui le font. Actuellement, le fossé en e-commerce est quand même en train de bien se creuser entre ceux qui en vivent encore et qui font de la niche et qui peut-être ne grossissent pas trop, et des acteurs assez gros, et ceux qui sont au milieu ont tendance à se regrouper pour faire face parce que le marché, le middle market du e-commerce est peut-être un petit peu en train de disparaître.
Ouais, je suis ok, mais tu vois par exemple dans les questions de maturité. J'ai parlé de la techno, mais je pense que j'aurais dû insister sur le point des services. C'est-à-dire que le fait de distribuer des produits, donc d'offrir un prix, une dispo à longtemps et reste dans certains secteurs primordial, mais on s'aperçoit assez rapidement derrière que ce qui va compter, c'est l'attention portée au client, même en B2B et surtout en B2B, le service après-vente, la confiance, développer la marque, etc. Donc bon, là dans 5 minutes on va parler de référencement en long, en large, en travers, et c'est une affaire de message, de marque, de contenu, et toujours de confiance et de relation. Et c'est vraiment un truisme que de dire et oui, il faut remettre de l'humain dans le commerce électronique. On entend ça toute la journée, mais de la part de marques qui l'affirment parce qu'elles ne le font pas, en fait. Et je pense que c'est l'étape 2. Or, de toute technologie, il vaut mieux avoir une page web avec la tête du patron qui dit « s'il y a un problème, vous m'appelez », plutôt qu'un site super technologique mais où il n'y a personne derrière.
Ludo, ton avis là-dessus ?
Ouais, du coup, bah, pour rebondir sur ce que dit Hervé justement à l'instant, c'est qu'effectivement, si aujourd'hui vous voulez vous lancer dans le e-commerce en proposant un prix compétitif et juste un prix, enfin, il n'y a aucun intérêt. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le consommateur a des dizaines de milliers de choix pour avoir le prix le moins cher, et il y a vraiment peu de chances que vous puissiez rivaliser avec des acteurs qui sont présents depuis des années sur le e-commerce. Maintenant, comme le dit Hervé, je pense qu'il y a pas mal d'opportunités, notamment en B2B. C'est vrai qu'on parle beaucoup de B2C pour le e-commerce. Le marché est vraiment mature d'un point de vue B2C. Maintenant, en B2B, le e-commerce B2B, c'est-à-dire de professionnel à professionnel, est encore trop peu répandu selon moi en France. Et je pense ici qu'il y a vraiment des opportunités à saisir. Et justement, si une marque arrive à lancer un site e-commerce en B2B en marketant entre guillemets bah, sa marque, enfin, son produit, son service, en valorisant un petit peu son image, son expertise, là il y a tout à jouer quoi. C'est-à-dire que aujourd'hui pour se lancer en e-commerce, c'est pas le prix qui va jouer, mais c'est vraiment la manière dont vous démontrez au consommateur, à l'acheteur, que vous êtes la meilleure solution pour répondre à son besoin ou à sa problématique.
Voilà, on ne dira jamais assez. Avant tout, travaillez vos services, travaillez votre marque, et finalement des opportunités, il y en a encore certainement. Merci messieurs, c'est la fin de ces actus et on passe au concept. Alors Hervé, aujourd'hui on va parler référencement avec deux mots barbares, le SEO et le SIA, mais qu'est-ce que c'est donc ?
SEO, SIA, c'est assez facile. Vous mettez devant un navigateur et vous lancez une recherche sur votre moteur favori. J'ai nommé Google. Et vous voyez apparaître deux types de résultats sur une page. Les résultats qu'on dit naturels, c'est ceux qu'on voit le moins. C'est le gros bloc gris au milieu avec les résultats qu'on voit depuis 20 ans. Qui sont les résultats qu'on appelle les résultats d'index de Google. En fait, Google... index enregistre tout ce qui se trouve sur le web, et quand on tape un mot-clé, bah, il donne du résultat dit pertinent en face. C'est ce qui fait que si vous vendez des chaussures à Marseille avec une bride jaune, si le propriétaire du site a bien fait son travail, Google sait vous mettre en tête de recherche. Mais comme on est dans une vie capitaliste et concurrentielle, il y a des petits filous chez Google qui ont dit hey, si on vendait de la pub. Et ils sont pas bêtes du tout, parce que comme tout le monde n'est pas naturellement aidé, ils ont proposé aux gens de mettre des liens publicitaires sur les côtés. Donc en haut parfois et sur les côtés presque toujours, on trouve des liens qu'on appelle sponsorisés. Et là, c'est pas du SEO, Search Engine Optimization, c'est du SEA, Search Engine Advertising, donc de la publicité, que tout un chacun peut acheter très facilement en allant sur AdWords, google.com ou fr, et créer ces petites annonces qui vont apparaître quand quelqu'un tape des mots-clés. Le coup de génie de Google, c'était de se faire rémunérer au clic et aux enchères. C'est-à-dire, quoi qu'advienne le visiteur, une fois qu'il a cliqué sur votre pub, eh ben, vous payez si vous êtes annonceur. Et d'autre part, s'il y a d'autres annonceurs en face de vous sur chaussures à bride jaune dans Marseille, eh ben, vous allez payer plus cher. Voilà, SIA, on paye, SEO, c'est gratuit. Ça, c'est la base, mais c'est faux parce qu'il faut beaucoup travailler pour être bon en SEO, donc sur les résultats naturels. Et est apparu un nouveau métier qu'on appelle référenceur.
Un métier extrêmement récent. Alors oui, il est important d'insister que... sur tout ce qui est payant, c'est très bien fait sur Google. Il y a juste une petite brique en vert marquée annonce, ou alors vous avez un lien vers le shopping, etc. Ou même sur Google Maps, hein, c'est-à-dire que tout ce que vous voyez ressortir, vous pouvez payer pour être présent. Et l'autre notion sur laquelle insister, c'est que c'est un système d'enchères. Donc vous allez donner une somme qui va pouvoir être évaluée en temps réel. Et si vous, sur chaussures à bride jaune, vous avez dit que vous vouliez bien monter jusqu'à 1,50€ du clic, parce qu'on paye bien au clic, et donc même si la personne n'achète pas, vous allez payer, et que l'autre ami qui voulait bien mettre 2€, et bien c'est lui qui s'affichera, entre après tout un tas de choses avec des textes différents et du testing AB pour avoir les meilleurs messages. Mais voilà, au niveau de tout ce qui est publicité, on peut peut-être aussi citer d'autres plateformes qui vendent de la publicité, parce que évidemment le SEO c'est logique, mais Ludo, quand tes clients te demandent de la publicité payante, tu les renvoies plutôt vers quoi ?
Bah, principalement Google, franchement, on va être clair à ce
C'est
niveau-là.
étonnant, mais je ne comprends pas. 96% des requêtes, c'est ça qui t'a convaincu?
Ouais, c'est ça. Bah, en fait, ouais, c'est ça. C'est 91%. Enfin, moi, la stat que j'ai, c'est ça. C'est 91% des utilisateurs en France utilisent Google. On voit que la tendance est un peu différente aux États-Unis où Bing commence à prendre des parts de marché. En France, faut être clair, les personnes qui utilisent Bing, c'est les personnes qui sont un peu âgées, qui ont acheté un ordinateur Microsoft et qui ont Bing par défaut de paramétrer sur leur navigateur. Et du coup, comme ils savent pas changer, ils utilisent Bing.
Est-ce que vous pensez que la première recherche sur Bing, c'est Google?
Ouais, c'est possible, hein. Franchement, ça m'étonnerait pas. C'est,
Je
ça,
vous
ça demande
trouve
peut-être vérifier.
caricaturaux, messieurs.
Mais non, on troll un petit peu. Et ceci dit, je ne sais pas si vous utilisez de temps en temps Quant, mais ça mérite de s'y intéresser un peu.
Ouais, moi, franchement, je l'ai utilisé. Enfin, je m'étais forcé parce que voilà, je suis assez curieux, donc j'avais carrément enlevé Google et Safari de mon iPhone pour mettre Quant et être sûr de démarrer mon expérience web sur Quant. Maintenant, je t'avoue que moi, de mon côté, je m'y suis pas retrouvé. Quand je tape des recherches, bah, clairement, Google, de par toutes les données qu'il a, mes historiques de navigation et les données qu'il a sur moi, bah, forcément, les résultats qu'il me propose sont nettement plus pertinents que les résultats que me propose Quant. Autre problème que je vois avec Quant, c'est-à-dire que Quant aujourd'hui, bah, prétend, enfin, son business model, c'est quoi? C'est de vous permettre de faire des recherches sans utiliser vos données personnelles. Et maintenant, je ne vois pas comment Quant aujourd'hui peut monétiser quoi que ce soit. Enfin, il y a peut-être des pistes à explorer, mais je ne vois pas aujourd'hui comment monétiser un petit peu bah, son service, quoi. Comment Quant peut faire ça? Et à l'inverse de Google, quand on parle de Google et du SIA, faut savoir que sur Google, 2 tiers du chiffre d'affaires de Google provient des Google AdWords. Et donc, bah, Google vit de ses annonces et vit justement des données, de la monétisation des données qu'il arrive à récupérer. Donc je ne vois pas comment un autre moteur de recherche peut faire différemment.
Parce que peut-être que vous croyez jusqu'ici que Google était un moteur de recherche, mais non, Google est bien un publicitaire et c'est comme ça qu'ils gagnent de l'argent. Et c'est d'ailleurs en assurant un fonctionnement de leur moteur de recherche pérenne et extrêmement efficace qu'ils s'assurent d'avoir de la pub dessus. Et donc on en revient au référencement naturel, donc celui qui est dit gratuit mais qui demande beaucoup de temps. Et auquel il faut faire attention parce que le jour où Google change l'algorithme, eh ben on peut se retrouver gentiment pénalisé. Et si un jour vous entendez parler de pingouins ou de ce genre de choses, vous verrez de quoi on parle.
Oui, si je peux ajouter un mot aussi par rapport au point que vient de faire notre camarade à très juste titre, le fait de collecter des informations d'utilisation ou de profiler l'utilisateur me semble extrêmement important, d'une part parce que énormément de requêtes sont faites sur mobile, d'autre part parce que les usages évoluent. Je veux dire par là que quand on cherche des chaussures à bride jaune et qu'il est 22 h et qu'on est dans son canapé, on n'est pas dans la même situation que si on est dans une rue piétonne à chercher des chaussures à bride jaune. C'est pas la même attitude d'achat, c'est pas les mêmes résultats qui nous intéresseraient à un moment et à un autre. Et servir le client hors de toute considération directement commerciale, servir la personne qui fait une recherche sur Internet, c'est aussi avoir ces informations de contexte, savoir si il fait une recherche très fréquemment pour lui donner un résultat plus pointu, plus affiné, avoir un résultat qui soit adapté aux circonstances. Donc l'option de Quant me paraît intéressant, comme DuckDuckGo, hein, c'est pareil, mais ça me semble un tout petit peu utopiste.
Bon.
Ouais, complètement.
Eh bien, puisqu'on parlait de Google, on va continuer dans un instant, puisque maintenant on a parlé référencement, on va enchaîner avec Ludovic et le dossier. Comme je le disais, on parlait de Google, et là, Ludovic a une révélation pour vous. Oui, toi qui vois ton site stagner en page 12 de Google, pourquoi tu ne montes pas? Pourquoi Google ne t'aime pas? Eh bien, c'est maintenant et Ludovic te dit tout.
Merci Guillaume pour la transition. Effectivement, donc là, bah moi je vais vous présenter 6 raisons que je vois pour lesquelles Google n'aime pas votre site et pourquoi vous n'êtes aujourd'hui pas en première page des résultats Google. La première raison, et c'est pour moi la plus importante, si Google n'aime pas votre site, c'est sans doute parce qu'il n'est pas adapté au mobile. Faut savoir qu'aujourd'hui, comme le disait Hervé à l'instant dans la partie concept, enfin une grosse partie des recherches se font depuis mobile et une grosse partie des navigations se fait depuis un appareil mobile. Google a bien compris ça et lui, il veut mettre en avant des résultats qui sont adaptés au mobile. La vocation de Google, c'est de vous proposer des résultats de recherche qui soient les meilleurs possibles et pour lesquels, enfin, au sein desquels l'expérience utilisateur est la meilleure. Si un site internet n'est pas adapté au mobile, il y a forcément de bonnes raisons pour Google de vous relayer en deuxième, troisième page ou douzième page des résultats. Donc ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est probablement parce que votre contenu, le contenu que vous proposez sur votre site internet n'est pas optimisé pour le référencement naturel. Alors qu'est-ce qu'un contenu optimisé ? Je pense qu'on fera un dossier un peu plus complet sur le sujet comment rédiger du contenu pour le web. Mais en gros, ce qu'il faut comprendre, c'est que aujourd'hui, si vous voulez être bien référencé sur un mot-clé, bah, vous devez utiliser ce mot-clé à bon escient et de manière assez régulière dans vos contenus, les contenus de votre site internet. Ça, c'est un point important. Si vous n'utilisez pas les bons mots-clés, les mots-clés utilisés par vos consommateurs, vos clients, l'acheteur, pour vous chercher sur internet, bah, il n'y a aucune chance que l'acheteur puisse vous retrouver en première page des résultats Google. Ensuite, une autre raison qui est assez importante en termes de référencement, il faut savoir que Google apprécie énormément les liens qui recommandent un autre site. C'est-à-dire que si aujourd'hui vous avez un site internet, mais qu'aucun autre site internet fait la promotion du vôtre en proposant des liens vers votre site internet, bah pour Google, vous n'êtes pas pertinent. C'est-à-dire que pour Google, un lien qui pointe vers votre site internet et qui voit une recommandation, tout simplement. Et donc, plus vous êtes recommandé par d'autres sites internet et plus votre site est jugé comme pertinent. Donc aujourd'hui, si vous n'êtes pas en première page de Google, c'est aussi peut-être parce que vous n'avez pas assez de liens qui pointent vers votre site internet.
Vous n'existez pas pour les autres et vous n'êtes pas reconnu comme une source fiable. Il faut aussi peut-être insister sur des pratiques qui ont existé à une époque d'échange de liens et qui sont plutôt à proscrire maintenant parce que c'est pas très efficace.
Ouais, complètement. Effectivement, l'échange de liens, quand je parle de liens, il y a effectivement une nuance entre des liens de qualité et des liens de mauvaise qualité. Là, je pense que c'est pareil. Il faudrait qu'on en parle dans un dossier vraiment précis parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à dire. Mais il faut comprendre, en gros, que si un site qui a une mauvaise réputation fait un lien vers votre site à vous, bah vous serez plus pénalisé qu'autre chose auprès de Google. Donc effectivement, pour qu'un lien soit un lien de qualité, bah faut qu'il soit contextualisé déjà, effectivement, qu'il apparaisse au sein d'une page et non en bas de page, en blanc sur blanc, pour tromper Google. Enfin voilà, il y a eu effectivement pas mal de mauvaises pratiques à ce niveau-là.
On oublie tous les annuaires de mauvaise qualité qui font du lien en pagaille.
Ouais, complètement. Effectivement, là, la clé dans tous les cas. Et je pense qu'on aurait même presque pu commencer par ça, mais moi, je suis de ceux qui pensent que le SEO aujourd'hui est quasiment mort, ou tout du moins est en train de subir une révolution qui va être importante. Et en fait, Google n'est pas bête. C'est-à-dire que toutes les raisons que je vous donne là et les bonnes pratiques à suivre pour être bien référencé, lui, Google, ça ne l'arrange pas. Le but, enfin, Google, ce qu'il veut, c'est vraiment mettre en avant le meilleur contenu, le contenu de meilleure qualité possible et non pas le contenu qui soit optimisé pour être en première page sur Google. Donc ça, vraiment, Google fait un peu la lutte à ça et je pense que bah là, il est en phase d'y parvenir et que le référencement n'est plus aussi pertinent que ce qui n'était avant. Mais ça fera l'objet peut-être d'un débat qui pourra...
On essaiera d'inviter un référenceur, tiens, ce sera intéressant de voir son avis là-dessus et toutes les astuces qu'ils arrivent toujours. Ils ont quand même toujours réussi à rebondir.
Voilà, exactement. Donc là, je pense que ça pourrait être intéressant d'avoir ce débat-là. Sinon, bah, pour poursuivre effectivement la thématique, donc on a vu que si Google n'aimait pas votre site, c'était peut-être parce qu'il n'était pas adapté au mobile, c'était peut-être parce que vos contenus n'étaient pas optimisés et n'utilisaient pas de mots-clés cohérents, c'était peut-être parce que vous n'avez pas de lien, vous n'aviez pas assez de liens de qualité qui pointaient vers votre site. Et il y a d'autres raisons qui sont un peu plus complexe à comprendre. Je pense notamment au taux de rebond, c'est-à-dire aujourd'hui, si vous avez un taux de rebond qui est trop élevé, bah Google considère que votre site n'est pas pertinent. Mais maintenant, vous allez me dire, qu'est-ce qu'un taux de rebond ?
Exactement. Qu'est-ce qu'un taux de rebond, Ludovic ?
Eh ben, en fait,
non, mais ça va le faire. Je pense que je maîtrise un peu le concept. On ne sait jamais. Mais effectivement, un rebond, en fait, c'est une personne qui va saisir une requête. Je vais essayer de vulgariser au maximum le truc, mais une personne qui va sur Google, tape une recherche, elle va cliquer, elle va arriver sur votre site internet, et si elle revient sur Google derrière, bah ça c'est un rebond, en gros. C'est comme ça qu'il faut voir la chose.
Voilà, c'est quitter la page comme si vous n'aviez pas trouvé ce que vous cherchiez.
Voilà, c'est exactement ça. Et donc, pour Google, bah, il a envoyé l'utilisateur vers votre site internet et l'utilisateur est revenu vers Google. Donc, l'utilisateur est insatisfait, donc Google vous aime pas. C'est vraiment clairement ce qu'il faut comprendre. Donc ça, il y a différentes façons d'améliorer votre taux de rebond et on va pas les détailler aujourd'hui parce que ça demandera pareil de longues minutes, mais c'est vraiment une chose à travailler. Le taux de rebond, vous pouvez l'analyser dans un outil qui s'appelle Google Analytics. Enfin, c'est pas un outil Google pour rien, qui vous permettra effectivement de mesurer votre taux de rebond et essayer de l'améliorer. Il y a un autre point qui est important et qui va de pair avec le taux de rebond. Google n'aime pas les visiteurs qui arrivent sur un site internet et qui n'y restent pas très longtemps, même si c'est pour aller sur une autre page derrière et non pas retourner sur Google. Google apprécie qu'un utilisateur qui l'envoie vers votre site, bah, que cet utilisateur-là passe plusieurs secondes, enfin surtout plusieurs minutes sur votre site. Ça veut dire qu'il apprécie votre contenu, qu'il est satisfait de votre contenu et qu'il est curieux et qu'il veut aller plus loin. Donc vous proposez forcément du contenu de qualité. Donc ça va un peu de pair avec le taux de rebond, mais le temps que passent les visiteurs sur votre site ont un impact sur le référencement aujourd'hui. Et il y a une autre raison qui est assez drôle, enfin qui peut être assez complexe à gérer et qui explique pourquoi de nombreuses sociétés se plantent sur Internet en pensant qu'il suffit de lancer un site Internet pour être visible. C'est qu'aujourd'hui, Google prend en compte dans son principe de référencement le nombre de visiteurs que vous avez sur votre site internet. C'est-à-dire que si aujourd'hui vous n'avez pas de visiteurs sur votre site internet, vous êtes jugé comme non pertinent par Google et du coup il ne vous met pas en avant. Mais si Google ne vous met pas en avant, bah vous n'aurez pas de visite sur votre site internet parce que Google est en général la plus grande, enfin, le plus grand levier d'acquisition de trafic pour un site internet.
Mais comment on s'en sort alors de ce cercle infernal? J'ai pas de visiteurs et je suis nulle part sur Google.
Et voilà. Et là, c'est effectivement le gros problème de beaucoup d'entreprises que je rencontre. Elles ont investi 10, 15 000 euros, comme je le disais tout à l'heure, dans la création d'un site internet qui est super joli, qui est adapté au mobile, qui est plutôt sympa et où l'expérience utilisateur est bonne. Mais maintenant, elles n'ont pas prévu de plan de promotion de ce site internet-là et se disent que, bah, dans quelques jours, dans tous les cas, Google va bien les référencer en première page et tout ira bien et ils auront des visiteurs. Le problème, c'est que ces boîtes-là, elles se retrouvent au bout de 3, 6 mois avec 30 visites par mois sur leur site internet parce qu'elles n'ont pas fait de stratégie de promotion. Et en fait, ce qu'il faut comprendre aujourd'hui, et c'est un petit peu aussi, c'était un petit peu le sujet du concept de Hervé, mais c'est que aujourd'hui, il n'y a pas que le référencement gratuit qui apporte du trafic, il y a aussi le référencement payant qui peut vous aider à amener du trafic, il y a les réseaux sociaux qui peuvent vous aider à amener du trafic, il y a l'emailing, il y a différents leviers. Et vraiment, ce qui est important de comprendre, c'est que quand vous lancez un site internet, n'attendez pas que Google vous référence en première page pour avoir vos premiers visiteurs. Vous devez déjà mettre en place une stratégie de promotion de votre site internet en utilisant les réseaux sociaux, éventuellement la publicité, les emailings, pour drainer du trafic. Parce que si vous n'avez pas ce trafic de base sur votre site internet, vous aurez du mal à vous faire référencer.
Et c'est ce qui explique, par exemple, qu'au lancement d'une activité pendant quelquefois de nombreuses semaines, voire des mois, ce soit société.com qui soit le mieux référencé sur votre propre nom ou les pages jaunes, parce qu'effectivement, eux, du trafic, ils en ont. Et ce qui est important de comprendre, c'est qu'effectivement, le but de Google, parce qu'on l'a expliqué, Hervé l'a très bien expliqué juste avant, c'est de vendre de la publicité. Son but, c'est de proposer le meilleur contenu possible. Et donc, si vous avez un taux de rebond, peu de visites, ou que les gens repartent vite ou restent pas sur votre site, pour lui, c'est que vous n'avez pas grand-chose à y dire et que vous n'êtes pas efficace et donc pas intéressant pour lui pour pouvoir vendre de la pub derrière. Donc, évidemment, il vous pénalise et ça peut pénaliser assez fort. De ton côté, Hervé, la question. J'ai mon site référence pas bien, il n'est pas en première page de Google, c'est la première porte d'entrée quand des gens te contactent.
Alors, parfois, je dois dire quand même, c'est pas toujours le meilleur pronostic pour un prospect, si je puis me permettre. On se dit pas forcément, tiens, voilà un bon client, quoi.
On est bien d'accord.
Parce que, je veux dire que la relation client-fournisseur, c'est un peu comme une partie de tennis et il faut avoir quelqu'un en face qui a envie de jouer. Et là, ça veut dire qu'on a quelqu'un en face qui se dit, je vais jouer sans, enfin, je vais gagner sans jouer. Donc, je m'attache beaucoup à cette question de niche que tu as évoquée tout à l'heure. C'est-à-dire que si on reprend notre histoire de chaussures à bride jaune à Marseille, on a nos chances. Mais si la personne nous dit, je voudrais être placé sur chaussures, d'abord, il a aucune chance. D'autre part, ça s'appelle pas une stratégie, ça s'appelle acheter une mitrailleuse pour abattre un pou. On risque plutôt de tuer le patient, quoi. Hein, ça sert pas à grand-chose. Et on est sûr de gagner, mais de tout casser.
Et de gagner tant qu'il y a des sous. Parce qu'au bout d'un moment, ça s'épuise.
Bah, y a un moment en fait où tirer à la mitrailleuse dans un troupeau de chèvres, il y a plus cher de balles que de chèvres. Même si on en tue une, on n'a rien gagné. Donc ça, il faut quand même identifier ce souci-là, c'est-à-dire que vouloir se placer sur Google, c'est avoir quelque chose à vendre et à dire. Et c'est la première question à poser au client. Et s'il n'a pas grand-chose à raconter, on ne fera pas grand-chose derrière. D'autre part, ce que je voulais dire sur cette question de référencement, c'est que les chiffres parlent, et ça, c'est juste fascinant. Et c'est quand même ce que Google a mis en avant de manière très très brutale en moins de 20 ans. C'est le fait que bah, quand on fait des maths, on a accès à la vérité, et même à la vérité sociologique, marketing, humaine. Et en l'occurrence, le truc, c'est que le taux de rebond est un excellent indicateur de la qualité du contenu. Et il y en a un autre, c'est le taux de clic, hein, c'est-à-dire que quand on publie un contenu frais, pendant un petit moment, Google vous met sur la première page. Si les gens sont intéressés et cliquent dessus, Google va maintenir un classement, pas forcément en tête, hein, mais un classement assez honorable. Et si le contenu est pauvre et jamais cliqué, bah, la page en question redescend dans le classement. Ça signifie que tout le monde a sa chance et que sur une stratégie de niche, on peut y arriver. Et ça, c'est un point clé, je pense, à retenir. C'est répondre à la question, qu'est-ce que vous vendez à qui? Et une fois qu'on sait ça, on peut mettre en place du contenu qui est intéressant. La technique derrière ne sert pas à avoir de la performance. C'est exactement comme pour les chaussures de sport.
C'est parce qu'on a des belles Nike qu'on court plus vite.
Voilà, le plus grand champion du monde ou les champions doivent être bien équipés. Sinon, ils perdent du temps. Mais ça transforme pas les ânes en chevaux de course. C'est pas cette question qui fait la différence.
Donc avant de se plaindre de sa position sur Google, on réfléchit bien à qui on vend, pourquoi on vend, et puis on essaye un petit peu de diversifier aussi de la manière dont les internautes vont venir nous trouver. Parce que c'est aussi ça que Google
Exactement.
attend, finalement, il attend qu'on fasse nos preuves. Eh bien, c'était très clair, je vous remercie, messieurs. C'est le moment de conclure cette émission. Je vous remercie toujours pour votre expertise et votre bonne humeur. Alors, encore une fois, où est-ce qu'on peut vous retrouver, Ludo?
Eh bien, comme toutes les semaines, comme après chaque podcast, bah, vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, sur Twitter notamment en tête, @LudoSLN, sur LinkedIn, et sur mon blog ludoSLN.net, où vous retrouverez justement des trucs et des astuces pour bien communiquer sur Internet et les réseaux sociaux.
Ludo et Hervé.
Alors, c'est très facile de me retrouver sur Twitter, @Valvert, comme une eau minérale qui n'a aucun rapport avec la choucroute. @Valvert et évidemment sur Shake, puisque le 21 et le 22 juin, j'aurai le plaisir de recevoir à Marseille plus de 2000 chefs d'entreprise qui viennent parler e-commerce, innovation, financement, emploi, etc., etc., faisant de la French Tech ex-Marseille une des plus dynamiques de France.
Bon, quant à moi, vous me retrouvez avec Guillaume GYOM l'aîné sur à peu près tous les réseaux et puis avec un peu de chance, le samedi matin, vous pouvez me retrouver au rayon frais de Monoprix. Je remercie les poditeurs. Pensez à vous abonner, pensez à laisser des étoiles, des commentaires, tout ça, tout ça. Je vous rappelle qu'on a un petit site en place. Sur lequel vous pouvez nous poser des questions, vous pouvez réagir et puis voilà, peut-être nous laisser un message et on répondra aux questions dès le prochain numéro. Ça se trouve sur www.chérisacapte.com, chéri avec un E, pas de E, parce que nous, on est comme ça, on parle à tout le monde. Et puis, on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode. Et d'ici là, continuez de capter. Ciao!
Bisous les loulous!